Marc Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes référent La République En Marche dans les Hautes-Alpes, un parti qui est dans les remous depuis plusieurs semaines, depuis décembre, avec la réforme des retraites qui ne passe pas en France. Les négociations vont reprendre cette semaine. Les syndicats n'attendent pas les résultats d'un compromis possible. Ils appellent déjà à la mobilisation, ces 9 et 11 janvier. Cette réforme des retraites, Marc Bourgeois, vous la voyez aboutir comment ?
Bah écoutez, on entre dans une phase de négociation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Laissons se dérouler cette négociation. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que le gouvernement est très ouvert, beaucoup plus que ce qu'on le laisse penser. Il y a un certain nombre de sujets qui ont été soulevés, notamment celui de la manière de gérer l'équilibre du financement à la fois du système de retraite d'aujourd'hui et de celui de demain. Tout ça est sur la table. Alors après, il y a un jeu de crispation assez classique dans ce pays. Dès que on fait des réformes un peu en profondeur, c'est compliqué. Les gens sont inquiets, à juste titre parfois.
Et là, à juste titre ?
Je pense que sur le système par points, tout le monde comprend la logique. Bon, après, il y a des craintes. Qu'on peut comprendre aussi sur comment la valeur du point va être fixée à terme, est-ce que ça va avoir un impact sur les retraites, est-ce que tout ça est fait en réalité pour diminuer les retraites à terme, ou est-ce que c'est sincère et qu'on va avoir un système qui sera effectivement plus performant, plus juste, plus équilibré, ce qui est la volonté profonde du gouvernement et du président de la République. Il ne s'agit pas de faire de l'économie sur la retraite, il s'agit simplement de prendre en compte le fait que la démographie étant ce qu'elle est, il y aura de plus en plus de retraités et que derrière, il faut qu'il y ait plus de travail. Alors, plus de travail pour financer les cotisations, plus de solidarité aussi, il y a tout un tas de dispositifs de solidarité qui sont par les contribuables, mais plus de travail, ça veut pas dire forcément que tout le monde travaille plus longtemps. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ne travaillent pas parce que le chômage est dans une phase encore très importante. Donc tout l'effort qui est fait pour remettre les gens au travail, tout ça, ça amène des cotisations. C'est un paquet d'ensemble.
Vous le disiez, le gouvernement est ouvert. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il l'est peut-être un petit peu trop dans cette réforme des retraites ? Comment on peut dire que l'on met en place un régime universel quand, à côté de ça, les militaires, les policiers, les danseurs de l'opéra, les pilotes d'Air France ont obtenu la reconnaissance de leur cas particulier ? Le gouvernement avance que c'est la fin des régimes spéciaux, mais pas de tous. C'est un petit peu difficilement défendable. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas autoriser les avocats à garder leur régime de retraite qui, en plus, est autonome et, en plus, a un excédent de 2 milliards d'euros ?
Alors, d'abord, cet excédent, est-ce qu'il va être durable compte tenu de la démographie des avocats
pour
sur
eux,
le
oui.
long terme ?
Pour eux, jusqu'en 2060.
Oui. Tout ça s'entend, se discute. Après, universel ne veut pas dire uniforme. Je veux dire, universel, c'est-à-dire des règles, des fondamentaux qui sont communs à tout le monde, avec l'idée qu'on soit le plus juste possible. Après, trouver le plus juste possible, c'est pas si évident. Parce que qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce qu'il est juste que certains partent à 55 ans à la retraite et d'autres seulement à 67 ? Tout ça se discute. Derrière, il y a la question de l'espérance de vie en bonne santé, de la durée de la retraite, etc. Donc ce qui est juste est une notion qui est difficile à trouver. On ne peut pas reprocher au gouvernement, sur certaines réformes, de vouloir avoir été beaucoup trop vite, sans concertation, et de passer en force. Et là, de prendre le temps, il y a eu 2 ans de réflexion préliminaire, les choses sont sur la table, elles sont sur la table ouverte. Alors on dit elles sont ouvertes sur la table, dites-nous vraiment ce que vous voulez faire, parce que c'est flou. Et puis d'un autre côté, quand on met les choses sur la table sans concertation, dites ça va pas, vous faites pas de concertation.
Donc c'est universel, mais au cas par cas, quand même.
C'est universel en tenant compte des spécificités. Donc je pense que l'idée, c'est que pour chaque métier, je prends par exemple le cas des cheminots, ou le cas des chauffeurs de bus. Bon. Le raisonnement, c'est de dire qu'il n'y a pas spécialement de raison qu'un chauffeur de bus à Toulouse ait un régime différent qu'un chauffeur de bus à la RATP à Paris ou qu'un chauffeur de bus à Gap. C'est le même métier, avec les mêmes contraintes, la même pénibilité ou les mêmes difficultés. Voilà. Il faut qu'au bout, tous les chauffeurs de bus aient un système homogène, logique, etc. Les régimes spéciaux, c'est des corporations. C'est lié à des entreprises ou à des corporations bien précises. Ce n'est pas lié à des métiers. Donc, je pense que ce qui est vraiment derrière, et c'est là que le jeu est très ouvert, c'est que c'est tout à fait possible que dans certains métiers, il faille partir plus tôt à la retraite. Le gouvernement le dit très bien. Il n'y a pas de... Je veux dire, quand on prend les rats des opéras, c'est sûr qu'on ne va pas faire de la danse pointée après un certain âge.
Dernière question sur la réforme des retraites. On passera ensuite aux élections municipales. Mais aujourd'hui, il y a une vingtaine de députés, La République En Marche, qui appellent le gouvernement à faire des concessions autour de l'âge pivot. Richard Ferrand, aussi le président de l'Assemblée nationale, appelle aussi à une concession autour de l'âge pivot. Et d'ailleurs, c'est la question alpe1.com. Il veut limiter le malus à 3 ans quand on part plus tôt. Est-ce que c'est une bonne idée de revenir sur cet âge pivot ? Est-ce qu'il faut revenir d'ailleurs sur cet âge pivot ?
Je pense qu'il y a deux éléments de marge de discussion qui sont sur la table. Je suis très favorable à ces éléments de discussion. C'est faire ce que fait l'Agirc-Arrco avec le système de points qui consiste à dire on a un malus mais il est limité jusque pendant 2 ans et puis après on retrouve la retraite à taux plein. C'est ce que propose Richard Ferrand.
Exactement.
C'est une piste, ça existe au niveau de l'Agirc-Arrco, ça a été décidé par la gouvernance pour le limiter. Il y a une autre piste consistant à dire, bon, l'âge pivot, d'abord, il n'est pas le même pour tout le monde, pour tous les métiers, mais comme c'est déjà le cas, ce qui pose un problème majeur à la CFDT et que je comprends, c'est que les gens qui aujourd'hui peuvent partir à 62 ans, ce sont des carrières longues. Donc ce sont les gens qui ont commencé le plus tôt, ce n'est pas forcément les plus qualifiés, et eux, avec un âge pivot à 64 ans, pendant 2 ans, enfin, ils se trouvent pénalisés. Alors, s'ils ne le sont que pendant 2 ans, c'est plus acceptable, mais ils se trouvent pénalisés sur leur retraite avec une décote qu'aujourd'hui, ils n'ont pas parce qu'ils ont tout leur trimestre, etc. Alors qu'un certain nombre d'autres, notamment de cadres ou de professions qui ont démarré plus tard parce qu'ils ont fait des longues études, de toute façon, aujourd'hui, à 62 ans, ils n'ont pas la retraite à taux plein. Il faut qu'ils aillent plus loin, voire jusqu'à 67. Alors, le 67 va devenir 64.
Oui. Donc, si je vous résume, vous êtes quand même favorable au fait qu'on fasse des concessions autour de cet âge pivot, en tout cas qu'on discute autour de cet âge pivot, qu'on ne reste pas sur la position d'Edouard Philippe qui était de dire qu'il y aura un malus pour toutes les années du reste de notre vie.
Je suis favorable à ce qu'on fasse les choses de façon pragmatique, raisonnable, juste. On aboutisse à quelque chose que les gens comprennent, où les gens considèrent que effectivement c'est plus juste comme ça, et c'est le côté universel. Pour chaque métier, on doit avoir les mêmes règles et après qu'on tienne compte de la réalité.
Marc Bourgeois, une question sur les élections municipales. Vous disiez, il y a quelques semaines, nous aurons des candidats tête de liste. Dans d'autres communes, nous aurons aussi des alliances. Où seront ces têtes de liste ? Est-ce qu'on pourra les voir dans les grandes villes comme Gap, la capitale douce, Briançon, Embrun, la Reine-Montéglin ?
Ce n'est pas encore calé. La République En Marche, vous le savez, c'est un parti récent, un mouvement récent, qui n'a pas d'ancrage territorial ancien. Par définition, donc on a très peu d'élus sortants. On a l'objectif qui est un peu plus d'élus. On a un objectif de 10 000 conseillers municipaux au niveau national, mais ce n'est pas énorme, 10 000 au niveau national. Dans les Hautes-Alpes, il y en a à peu près 2 000. Et on a surtout l'objectif qu'un certain nombre d'idées qui peuvent faciliter la vie quotidienne dans les Hautes-Alpes et des Hauts-Alpins soient reprises dans un certain nombre de programmes municipaux. Et c'est en fonction de ces programmes que les négociations ont lieu. Or, aujourd'hui, très peu de candidats, regardez, à Gap, mais même à Briançon, on ne connaît pas les programmes. Nous, on est prêts à discuter avec tous ceux qui veulent bien discuter. Il y a des endroits où on a des marcheurs qui ont envie d'y aller.
En fait, vous serez un vaste programme où les candidats pourront piocher dedans. Mais en tout cas, l'implantation politique...
Pas un vaste programme, parce qu'on veut pas. On a mis 5 idées très concrètes qui sont du ressort des communes et de l'interco, ça nous paraît très important la dimension interco. Si un certain nombre de listes reprennent ces programmes, on aura des marcheurs sur ces listes et on aura, fait progresser les choses, on pourra s'appuyer là-dessus pour la suite.
Mais en tout cas, La République En Marche a pu connaître une vague de victoires pour les présidentielles, pour les législatives. Aujourd'hui, elle pâtit quand même d'une faible implantation au niveau local et on le voit avec les élections municipales.
Vous avez tout à fait raison. Si on fait un peu d'histoire, si vous prenez en 1958, le général de Gaulle a pris le pouvoir. Les gaullistes ont mis 15 ans à s'implanter territorialement. Donc nous, au bout de 3 ans, ce n'est pas très étonnant qu'on soit plutôt dans un démarrage, dans le fait d'essayer d'insuffler un certain nombre de choses, de dynamiques, notamment de transcender les clivages partisans classiques, ce qui est relativement aisé dans le travail local, parce que très souvent, dans un conseil municipal, il y a 90%, 95% des choses qui sont votées à l'unanimité. Les questions de clivage sont assez limitées.
Donc vous appelez en tout cas les candidats à venir vers vous pour venir chercher ces 5 idées concrètes.
Contrairement aux partis traditionnels qui ont tendance à dire « faut pas qu'on nous pique notre programme, on va le sortir au dernier moment parce que l'autre va nous le piquer et on va être en difficulté, etc. » Nous, on met ces 5 idées sur la table et on dit elles sont à vous, emparez-vous. Nous, ce qui nous paraît, de toute façon, on n'est pas en capacité de présenter des candidats et des listes partout. Donc, on n'a pas d'autre choix pour faire avancer nos idées que de les mettre sur la table et d'espérer qu'un certain nombre de candidats s'en empareront, ce qui est le cas dans les discussions qu'on peut avoir. Et donc, si au bout du compte, ces idées sont mises en place et que ça crée une dynamique de progressisme municipal, on aura, je pense, bien travaillé.
Agape, on pourrait vous voir où ? Pour l'instant, il y a plusieurs candidats, notamment à gauche, Georges Omninski.
Il y en a qui ne sont pas déclarés encore.
Oui, Roger Didier,
voilà,
peut-être.
Donc nous, on est prêts à la discussion avec tout le monde. On est prêts à la discussion avec tout le monde. Il y a des gens qui veulent discuter avec nous, d'autres pas. Je veux dire, on y verra plus clair, qui n'ont pas encore commencé.
On
y verra plus clair dans les prochaines semaines. Et on ne veut pas se mettre dans une position, surtout pas, de dire on veut soutenir telle personnalité sans connaître son programme et sans avoir discuté du fond des idées. Et donc c'est pour ça que je suis très très prudent et très restrictif dans mes réponses, d'ailleurs de dire il cache son jeu, etc. Non, c'est que sincèrement, on veut que nos idées progressent et ça sera à travers la discussion. On peut très bien, si je vous disais, on va faire un accord avec Charlotte
Kuenz.
Kuenz.
Côté de Gap.
Voilà,
côté de Gap pour.
Ambition pour Gap, parce que c'est sympa, ça fera une alternative, etc. Le programme n'est pas là. Il y a peut-être des éléments de discussion, de convergence sur le programme, et ça peut être pareil.
Les discussions sont ouvertes, en effet, de partout, on l'a compris. Merci beaucoup, Marc Bourgeois. Je rappelle que vous êtes référent de La République en marche dans les Hautes-Alpes. Merci d'avoir été avec nous ce lundi matin dans le 8h30.
Merci à vous.